Un nouveau numéro de Parlons Patrimoine aujourd'hui que je présente avec Yoav Rossané, chargé de mission de la culture ici au Consistoire israélite du Bas-Rhin. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Catherine Walter, architecte conseil, et Caroline Pezzoli, directrice générale du CAUE Alsace, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, à propos de la formation qui concerne la sauvegarde du patrimoine et les outils à disposition. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors pour commencer, une présentation du CAUE Alsace, dont l'agence se trouve ici à Strasbourg. Il y a une agence également dans le Haut-Rhin ?
Oui, 16 avenue de la Liberté à Colmar.
Alors, on va en profiter pour que vous nous fassiez une présentation de cette agence du CAUE. Depuis quand elle existe ? Combien de membres ? Quelle est sa mission première ?
Donc, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement existe depuis 1978, aussi bien dans le Haut-Rhin que le Bas-Rhin. Et nous avons fusionné en 2021 pour créer le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement d'Alsace. Nous avons quatre grandes missions: conseiller l'ensemble des particuliers et les élus ou administrations sur toutes les questions qui concernent l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine, le paysage, l'environnement. Une autre des missions, c'est informer. Nous avons un lieu d'exposition et créons de plus en plus des expositions itinérantes pour justement véhiculer de la connaissance sur ces quatre thématiques. La formation auprès des élus plus particulièrement, mais également sur des formations sur mesure quand on nous le demande, et de la sensibilisation en milieu scolaire, ça va de la maternelle jusqu'au lycée professionnel, et là nous concevons des événements et de la médiation sur mesure en fonction des programmes scolaires et des attentes des enseignants.
La sensibilisation à l'architecture, à l'urbanisme, à l'environnement, au patrimoine tout simplement ?
Oui, sensibilisation sur globalement notre cadre de vie, tout ce qui nous entoure, améliorer la connaissance du pourquoi nous sommes entourés de ces bâtiments, l'histoire des bâtiments, les pathologies, le vieillissement, l'état sanitaire de tout ce qui nous entoure, et qu'est-ce que c'est le patrimoine, puisque c'est une notion qui ne cesse d'évoluer avec nous, et le recul temporel par rapport à ce patrimoine se réduit de plus en plus. Donc, nous sommes là pour essayer d'apporter des informations, de la compréhension à ce qui nous entoure, pour l'intégrer, le préserver et s'en occuper, tout simplement.
Alors, conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Aujourd'hui, une compatibilité entre urbanisme et environnement. Alors, dans une ville verte, j'entends. Aujourd'hui, plus largement, sur tout le territoire alsacien, c'est une compatibilité qui est de fait dans les études. Et quand vous donnez des conseils, alors je vais me tourner vers vous, Catherine Walter, architecte conseil. C'est quelque chose que vous prenez forcément en compte. Alors, on entend bien que les collectivités donnent des accords pour des permis de construire, par exemple. Mais aujourd'hui, vous intervenez de quelle façon, pour voir évidemment la prise au sol, comment est-ce que justement vous intervenez ? Expliquez-nous tout ça.
Alors de toute façon, quand on conçoit de l'architecture, on ne fait jamais fi du contexte, les architectes s'inscrivent toujours dans un contexte, et nous quand on conseille, évidemment, la première chose qu'on fait, c'est regarder ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe autour des lieux. Donc ça c'est pour l'environnement bâti ou l'environnement, l'aménagement, etc. Et puis, de plus en plus, l'environnement, c'est devenu aussi l'écologie, la biodiversité, etc. Et donc, c'est pareil, c'est intégré, c'est pensé en même temps.
C'est une sensibilité particulière liée à l'actualité aujourd'hui ?
Alors, effectivement, on a la loi climat et résilience et notamment la loi ZAN, donc zéro artificialisation nette, qui viennent en plus vraiment, qui viennent en plus s'imposer, on va dire ça comme ça, aux élus et aux citoyens, et qui ont fait que ça a un peu accéléré la prise de conscience aussi de tout un chacun par rapport à nos thématiques, à nous.
Aujourd'hui, le CAUE peut intervenir au niveau des particuliers également. Vous le disiez, vous êtes architecte conseil pour venir sur un chantier ou des plans et avoir donné un conseil. Ça, c'est un service qu'on ignore totalement en tant que particulier.
Alors, on ne va jamais se substituer au maître d'œuvre et on n'intervient jamais sans la demande d'un citoyen, d'un particulier.
Toujours dans un deuxième temps.
C'est toujours lui qui vient vers nous et qui nous pose la question, qui nous pose ses questions. Et en fait, on permet aux particuliers, mais aussi aux élus, de prendre du recul en fait, par rapport à une demande qui est formulée.
Yoav Rossano, vous avez bonjour, ravi de vous accueillir ici dans nos studios à Radio Judaïka, comme régulièrement d'ailleurs. Aujourd'hui, vous nous amenez deux invités du CAUE. Comment est-ce que vous, en tant que chargé de mission du patrimoine du Consistoire israélien du Bas-Rhin, vous avez pris contact avec ces architectes conseils du CAUE?
Alors, c'était un peu à l'envers. C'est Mme Petzoli qui a pris contact avec moi. C'est par rapport à notre travail du patrimoine, en fait. Et c'était une journée, non, d'information et par rapport aux différentes présentations de travaux au patrimoine, aux différentes institutions. Pareil avec le consistoire. Et là-bas, on a présenté les travaux de, par exemple, de la synagogue de Benfeld et des autres types de travaux à prévoir. Et voilà, et je pense, et là même maintenant, j'apprends des choses qui sont très, très importantes par rapport à l'information, c'est-à-dire des aides aux particuliers, aides aux institutions et les choses qu'on a besoin régulièrement ici.
Alors, on a un exemple concret, hein, je trouve ça intéressant, la synagogue de Benfeld qui a bénéficié de travaux importants. De quelle façon vous êtes intervenu?
Alors, sur la synagogue de Benfeld, nous ne sommes pas intervenus en tant que CAUE. Yoav Rossano et moi, on se connaît depuis plusieurs années et c'est un édifice qui est protégé au titre des monuments historiques. C'est un édifice inscrit et qui était assez dégradé avec des problèmes de mérules, de grosses pathologies, le nom dont je parlais précédemment. Et ça a été de faire un état sanitaire, de bien comprendre quels étaient les maux dont souffrait ce bâtiment, pour faire un programme de travaux à la hauteur des financements aussi, aller chercher les partenaires qui pouvaient cofinancer cet édifice, je pense à la Fondation du patrimoine, à l'État, région, département, et essayer de concevoir au fur et à mesure des travaux dans le bon ordre, hein, parce que quelquefois on voit l'intérieur, on a envie de traiter l'intérieur, mais si l'eau continue à tomber du ciel, que le toit n'est pas traité, que la charpente n'est pas restaurée, ben ça ne sert à rien. En tout cas, ça va continuer les désordres, et ben, c'est vrai que quand on fait des travaux sur le toit, le public, le grand public ne le voit pas forcément, mais c'est bien par là qu'il faut commencer. Donc, sur le thème pour lequel nous sommes retrouvés, c'était une formation sur le devenir des lieux de culte en Alsace-Moselle. Et c'est vrai qu'on a fait énormément de visites ensemble, aussi bien sur des cimetières ou d'autres édifices cultuels, qui nous ont permis de mieux nous connaître et mieux savoir comment approcher ce patrimoine.
Aujourd'hui, le régime concordataire en Alsace a une importance dans les financements également. Vous êtes dans le montage de ces dossiers de financement également. Vous donnez un coup de main aux collectivités. Alors là, en l'occurrence, c'est le consistoire israélien du Bas-Rhin.
Uniquement sur les édifices qui ne sont pas protégés, puisque l'État s'occupe de l'ensemble des bâtiments et monuments historiques. Vous avez aussi les architectes des bâtiments de France qui s'occupent des abords, mais il y existe des lieux qui ne sont pas préservés. Et donc, nous aidons à, alors quand je dis à améliorer la connaissance, hein, cette journée de formation, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale qui est venu nous chercher. Ça a duré une journée, et encore une journée, c'était presque trop court, mais on s'est vite aperçu que de lire un bâtiment, eh bien, ce n'était pas une évidence. Hein. Forcément, il y a des compétences derrière et que notre travail était utile. Donc, on ne se substitue pas à, mais par contre, on va donner le conseil de vers qui se tourner et à quel moment pour que tout se fasse dans le bon ordre.
Alors, cette journée de formation était sur la thématique « Quel devenir pour les églises et autres lieux de culte en Alsace-Moselle ?» Vous faites partie d'un collège d'informateurs ce jour-là, ou vous avez profité de la formation?
Non, nous avons dispensé la formation.
Voilà.
Alors, bien évidemment, le sujet, il est très, très large. Et puis, nous ne sommes pas entièrement sachantes. Donc, Cette formation, elle a été ponctuée par des interventions de différentes personnes. Il y avait des architectes du patrimoine, il y avait le consistoire, il y avait...
Des aides à la maîtrise d'ouvrage, accompagnement à la maîtrise d'usage, pardon.
Voilà, l'État également, un architecte des bâtiments de France de Metz.
Un maire qui a transformé, qui a désacralisé son église,
absolument.
La première en Alsace.
La Fondation du patrimoine, qui a un dispositif particulier pour essayer de préserver l'usage et introduire des actions, des fonctions éphémères, mais en essayant de garder l'édifice sacré. Donc voilà, c'était un architecte qui a réhabilité une ancienne chapelle en salle communale. Donc c'était vraiment des regards croisés pour bien faire comprendre qu'un édifice cultuel, on a tous un point de vue, mais c'est la convergence de plusieurs points de vue qui vont faire que le projet va prendre et être accepté par la population, puisqu'il y a un attachement. On a tous un attachement différent par rapport à ce lieu. Et c'était de bien faire comprendre à nos stagiaires que les regards étaient extrêmement croisés et larges et qu'il fallait écouter avant d'agir.
Yoav Rossano, aujourd'hui, la désacralisation d'un édifice religieux, c'est un constat d'échec. Comment est-ce que vous le vivez, vous, personnellement, et plus largement en votre qualité de représentant du consistoire?
Aujourd'hui, ça n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, en fait, on ne vend plus de synagogues. On essaie de restaurer les synagogues. Oui. On essaie d'abord de faire découvrir aux nouvelles portes pour la communauté, mais pour tout le monde, pour savoir qu'est-ce que c'est la culture juive, qu'est-ce que c'est une synagogue. Et les moments qu'on organise, par exemple, des événements culturels dans des synagogues, on donne des scènes aux artistes, mais en même temps à la synagogue lui-même et à la culture juive locale. C'est-à-dire que souvent, après les concerts ou après l'expo, les gens demandent « ça c'est quoi ?» et « ça, ça sert à quoi ?» Et en fait, et là, c'est tout le monde a gagné.
Donc l'idée aujourd'hui, c'est de ne plus procéder à une désacralisation d'édifices religieux, en l'occurrence de synagogues.
Encore une fois, on sait bien, au 19e siècle, en France, on avait 250 synagogues. Ici, en Alsace, on avait 175. Voilà, c'est une richesse.
C'est une richesse patrimoniale.
Incroyable. Aujourd'hui, on fait tout pour vraiment garder et sauvegarder le patrimoine. Encore une fois, on a discuté plusieurs fois, on ne peut pas restaurer tout la synagogue, et il faut trouver une raison, il faut trouver des projets qui sont pratiques et de manière culturelle aujourd'hui. Mais aussi restaurer une synagogue qu'on voit depuis 2018 avec la synagogue de Benfeld, ce n'est pas aussi simple. Et encore une fois, le patrimoine, c'est quelque chose d'émotionnel. Et qu'il faut, voilà, il faut considérer des différents côtés, côté
alors
politique.
Oui, bien sûr, on parle d'émotion. Aujourd'hui, vous, en qualité d'architecte, Catherine Welter, quelle est, vous, votre position en lien avec construire du neuf, réhabiliter le bâti, aujourd'hui, faire attention justement à cette charge patrimoniale qui peut être importante, on est dans l'émotion, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, on est encore face... Dans des villages, à des maisons alsaciennes qui sont rasées au profit de collectifs, qui rentrent évidemment dans des plans d'urbanisme bien précis, mais on va dire qu'ils défigurent souvent les centres-villes de certains villages en périphérie de Strasbourg. C'est quoi votre point de vue à vous?
Alors en fait, je pense que c'est aussi la force du CAUE, c'est que quand on arrive sur un lieu, on est là beaucoup pour écouter et pour rassembler les gens. Et il y a notamment la possibilité de faire de la consultation, de la concertation. Donc les avis, nos avis à nous ne sont jamais arrêtés quand on arrive. Oui. Et on ne prend pas la demande ou pour argent comptant. On re-questionne toujours. Et de ce point de vue-là aussi, la formation, la journée, elle a été pensée aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'effectivement... elle est pensée chronologiquement et on peut très bien s'arrêter à un entretien, si c'est possible, sur un lieu. Et c'est le message qu'on a voulu passer aussi aux élus ce jour-là, aux agents qui bénéficiaient de la formation. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut se dire peut-être que consulter la population, c'est un début, c'est peut-être Ça permet peut-être de passer après une recherche de financement pour aller vers un simple entretien régulier. Et puis peut-être qu'on peut aller plus loin, réparer. Et puis voilà, et au fur et à mesure de la journée, on est arrivé jusqu'à même proposer des transformations assez radicales. Mais c'était tout un panel de possibilités. Voilà.
Des transformations radicales, alors là, il me vient juste à l'esprit de l'opéra de la ville de Strasbourg. Sur ce genre de dossier, vous pouvez être vous consulté, parce qu'aujourd'hui, il y a des contradicteurs dans ce genre de dossier. Vous vous êtes plus du tout sur ce genre de dossier. Ça appartient entre le maître d'œuvre et d'ouvrage.
Ben en l'occurrence, comme l'a dit Carole, c'est un monument inscrit, donc on ne sera pas forcément consulté. Mais par contre, sur des bâtiments parfois aussi polémiques, il peut arriver qu'on aide à la décision, qu'on aide à trouver justement à faire dialoguer les contradicteurs entre eux.
Et c'est quoi les éléments factuels alors que vous mettez, vous, en avant pour amener une conciliation entre deux parties?
Mais en fait, déjà, on a une vue un peu à 360 degrés et de tous les acteurs. Donc, on va pouvoir aussi bien activer de la ressource historique que de la ressource technique, que la réalité des élus, et surtout la chronologie, l'actualité aussi, qui est souvent importante aussi pour les élus.
Il y a des CAE dans tous les départements de France, donc on bénéficie aussi de ce qui se passe dans les autres départements et on est en réseau, ce qui nous permet de toujours être informé, d'actualiser nos connaissances. Hein, c'est une formation continue, on doit être alerte sur tout ce qui se passe. Et sur ces sujets qui peuvent être, on parlait d'émotions passionnelles, c'était le terme d'attachement dont je parlais avant, on voit que patrimoine, il y a un avant et un après. Et dans le patrimoine, il y a deux notions, c'est qu'est-ce que collectivement, en termes d'héritage, nous voulons transmettre. Et il est difficile, là vous parliez de l'opéra, en fait, on est contemporains, on a du mal à imaginer comment ça se passe avant et qu'est-ce qu'on est collectivement en devoir de transmettre à nos successeurs. Et c'est justement dans ce dialogue qui peut être quelquefois un peu tendu et compliqué, c'est d'aller chercher des ressources auprès d'autres départements, même internationales, qui vont permettre de poser, de justifier, de comprendre et d'aller vers une concertation, vers un projet coporté. Voilà.
Avec des arguments rationnels. En fait, c'est la question de départ que je posais à Catherine Walter. On est loin de l'émotion et d'envie personnelle. Vous êtes sur un projet collectif et d'avenir. Et il y a quelque chose de très concret dans les propositions qui sont faites et que vous retenez.
Toujours, puisqu'il en ressort toujours quelque chose de très concret quand on accompagne des élus. En gros, on lui met à peu près toutes les cartes sur la table. On essaye de l'aider à formuler des choix, à justifier, motiver, ce qui permet d'expliquer aussi aux concitoyens pourquoi on n'a pas gardé ce projet ou un autre. Et après, jusqu'à la faisabilité opérationnelle. Donc là, le CAUE se retire, une équipe de maîtrise d'œuvre composée de plus en plus de différentes compétences. On peut avoir des paysagistes, des architectes du patrimoine, architectes. Enfin, vraiment, c'est de plus en plus large, qui vont après prendre le relais et finaliser le projet, le rendre concret.
Aujourd'hui, vous parliez de concret. Concrètement, quels sont les outils à disposition des collectivités quand il s'agit de pérenniser un lieu de culte, par exemple, ou de justement d'éviter de désacraliser aujourd'hui, de garder ce patrimoine vivant et à disposition?
Alors, il y a plusieurs outils, celui des outils régaliens, la loi, donc la protection au titre des monuments historiques, les abords des architectes des bâtiments de France, le label architecture contemporaine remarquable, l'article du code de l'urbanisme R111-21 qui permet d'identifier un intérêt architectural urbain, paysager ou patrimonial. Et il y en a encore un autre, le L151-19, qui permet d'identifier aussi bien des clôtures, des arbres, des éléments lapidaires, des bâtiments, de la végétation. Donc tout ce dispositif existe. Et après, il y a l'intérêt collectif, c'est-à-dire que la valorisation, les journées du patrimoine, les rendez-vous au jardin vont permettre de ne pas protéger d'un point de vue réglementaire, mais c'est la population qui va se rendre compte que pour un périmètre donné, une communauté donnée, il y a un intérêt et donc vont se sentir attachés à ce lieu, à ce bien et le défendre, le préserver. Vous voyez bien que de plus en plus de collectifs se montent pour préserver quand il y a des vides réglementaires.
Alors, il est question, évidemment, du nerf de la guerre, également de budget pour faire appel à vos services, pour avoir un regard de spécialiste sur des sujets précis. Il faut compter un budget pour avoir une intervention du CAUE et d'un architecte conseil.
Alors, en fait, les CAUE sont financés par la taxe d'aménagement, par une reversion d'une partie de la taxe d'aménagement. Et à ce titre, nous avons l'obligation d'être gratuits pour les pétitionnaires, pour les gens qui souhaitent nous consulter.
C'est quelque chose que les gens ignorent, ça, qu'effectivement, on peut faire appel à un architecte conseil pour n'importe quel projet. Alors, vous n'êtes pas architecte, vous n'allez pas faire des plans pour un agrandissement de maison, etc. Mais sur des projets très précis, avec, c'est ce que vous disiez, si quelqu'un a déjà un plan en main et a déjà un projet, vous pouvez valider, vous, un conseil, un deuxième conseil.
En fait, ça peut même être largement en amont, c'est-à-dire qu'on est, vraiment architecte, urbaniste ou paysagiste, on est formé. Et donc, on peut venir nous voir pour un conseil en amont, même sur un achat d'un bien. Et je pense notamment même des choses qui peuvent faire partie du patrimoine, pas forcément labellisées ou inscrites, mais quelqu'un peut avoir aussi des questions très précises, des inquiétudes, et on peut à ce moment-là venir lever les points de vigilance et faire le tour en amont, avant que la personne choisisse son maître d'œuvre ou se lance dans des travaux par elle-même.
Yoav Rossano, je vais vous laisser le mot de la fin. Vous aviez peut-être une question pour une de nos invitées ou vous aviez peut-être envie de parler d'un projet à venir en lien avec le CAUE.
Non, en fait, j'aurais beaucoup de questions plus tard. Mais en fait, les choses qui sont très pratiques comparées aux services comme la DRAC, la région, etc., et que c'est pour monuments, des objets, des bâtiments qui ne sont pas inscrits. Et c'est ça la grande différence entre services, par exemple, de la DRAC et votre service. Et c'est la chose que nous, on a besoin. Parce que chez nous, il y a Benfeld qui est inscrit, mais la plupart des synagogues ne sont pas inscrits, ils ne sont pas protégés. C'est un travail qu'on est en train de faire. Mais ça prend quelques années quand même à inscrire un bâtiment.
Il n'y a pas un autre label de bâtiment remarquable, une façon de protéger peut-être ces bâtiments s'ils ne sont pas inscrits?
Alors, c'est ce que je disais préalablement, c'est le label architecture contemporaine remarquable, mais qui est sur une période chronologique de moins de 100 ans. Et autrement, c'est une identification via les documents d'urbanisme. Alors s'il y a une actualité, c'est qu'il va y avoir l'inauguration de la synagogue de Dütlenheim, réhabilitée en lieu associatif. Je l'ai visitée la semaine dernière, c'est quand même une très très belle réussite. Donc quelquefois ça existe, ça mérite quand même de le valoriser. Et c'est un lieu qui reste vivant, puisque les concitoyens sont appelés à interagir ensemble et le bâtiment subsiste dans la commune et fait référence comme témoin culturel.
Donc ça devient un lieu culturel, centre socio-culturel, c'est ça de la ville de Dütlenheim?
Ce sont les associations qui peuvent se rencontrer, partager, intergénérationnelles. Voilà.
Très bien, écoutez, merci à toutes les deux, Catherine Velter, architecte conseil, Carole Pezzoli, directrice générale du CAUE Alsace. On vous retrouve ici à Strasbourg, c'est rue Hanong, il me semble. Voilà, pour nos auditeurs qui ont envie d'un conseil, évidemment, vous avez un site internet très bien renseigné, très interactif. Merci à toutes les deux d'être passées nous voir pour nous parler aujourd'hui de ces actions et plus précisément de ces outils en direction des lieux de culte Alsace-Moselle. Merci à toutes les deux et merci Yoav Rossano.
Merci.
Merci. Merci.